Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob.
Le blob, blob,
blob,
un blob sauvage.
Le blob, je sais pas.
Le blob.
Oui, oui, j'en ai plein.
Et quoi, c'est réellement un organisme.
Le blob, extension du domaine des luttes
et des imaginaires.
Une émission de la Maison du Livre
en partenariat avec Zara ASBL et Radio Panique.
Émission numéro 5.
Depuis le séquençage de leur génome en 2015, les blobs ont été classés parmi des amibozoaires, un assemblage hétéroclite d'unicellulaires un peu primitif. D'ordinaire, ils se déplacent en traînant leurs membranes, mais leur allure peut quadrupler avec la faim. Dans ce cas, ils dévorent tout sur leur passage, engouffrant leur nourriture sans la mâcher comme des animaux. En revanche, leur pigmentation les rapprocherait du règne végétal. Pour apprendre, les blobs recherchent le contact de leurs semblables. Lorsque deux blobs se rencontrent, une petite veine se forme entre eux et on ignore ce qu'ils échangent durant des heures. Les blobs grandissent vite, avec des phases de régression. Il reste un mystère pour la science, à se demander s'ils ne font pas exprès de contrarier toutes les attentes en éternel adolescent. Le blob, c'est aussi le nom de l'émission qui explore l'extension du domaine des luttes et des imaginaires. Pour conclure cette première saison, nous sommes partis à la rencontre de Lucie, Achille, Elias, Floki, Maria et Jean. De l'action paysanne au féminisme cuir, de la lutte contre le changement climatique à la boum, elles ont la vingtaine et nous racontent comment l'émotion se mue en mouvement, nous confient leur vision du futur, leur message aux générations passées et à venir, leurs inspirations artistiques. De quoi bousculer pas mal de clichés, de préjugés, de certitudes. De quoi aussi, sans excès d'optimisme mais avec lucidité, regarder l'avenir bien en face. Nous en livrons le portrait croisé.
Au début, j'étais un peu seule, j'avais un peu peur, je me renseignais sur toute cette crise climatique et toutes ces informations que j'apprenais au fur et à mesure, ça me faisait peur. Et heureusement, à l'école, il y a une professeure qui nous laissait la chance d'en parler en classe. On faisait des débats et ça m'a vraiment aidée à mieux comprendre et voir qu'on était plusieurs à être sensibles à ça. Et avec le temps, j'ai rejoint des mouvements et ça m'a fait énormément de bien parce que voir qu'on est nombreux à se poser tant de questions sur ce sujet, mais aussi à essayer de se battre, de trouver des solutions et de créer plein d'actions et de mobilisations pour mettre en œuvre une prise de conscience au niveau de tous les citoyens et de nos leaders. Ça m'a fait énormément de bien parce qu'au début, j'étais dans la peur en voyant tous ces chiffres et je le suis encore aujourd'hui quand j'en apprends des nouveaux. Mais le fait d'être entourée, ça fait énormément de bien de pouvoir en parler et surtout avoir de la motivation collective pour essayer de régler cette urgence.
Je pense que ce qui est important aussi, c'est déjà d'avoir cette émotion, que ce soit de la colère, de la peur ou autre, parce que ce n'est pas forcément le cas. Moi, ce qui m'a fait passer vraiment à l'action, c'est comme je disais, c'est plus une déception. Peut-être que j'étais un peu naïf aussi par rapport au système politique actuel. Et c'est cette déception des marches qui m'a fait vraiment passer dans la désobéissance civile et dans des formes d'action que certains diraient plus radicales. Et ce qui est important aussi, ouais, c'est que je pense que c'est un chemin, quoi, c'est un processus. Évidemment, au début, j'étais plus dans des actions individuelles. Mais je pense qu'assez vite, quand on se renseigne, quand on pratique, on se rend compte que ça, c'est pas suffisant et qu'il va falloir aller dans de l'action plus collective, politique aussi. On parlait de de sentiments difficiles, voilà, de colère, de peur, d'incertitude. Moi, une manière justement qui m'a permis de surmonter tout ça, de voir les choses de manière plus optimiste au jour le jour, c'est vraiment justement de se mettre en action, et en particulier en groupe, collectivement, le fait de rejoindre des gens qui ont la même conscience comme ça, des enjeux qui me sont importants et pour lesquels justement j'ai un peu de peur et d'incertitude. C'est ce qui permet, voilà, de continuer. C'est un peu à la fois on lutte parce qu'on pense que c'est juste, et à la fois personnellement c'est aussi une sorte de thérapie, quoi. Ça qui me semble important, et ça permet aux gens de passer au-delà de ces sentiments négatifs. Ouais.
Ça a été un travail super long, je dirais. Ça a mis au moins 5 ans, voire plus, de prise de conscience qui est arrivée à la fin du lycée. Prise de conscience de tous les enjeux politiques et de la gravité de la situation, avec des regards croisés, quoi. C'était à la fois des profs, des amis, des lectures, la famille aussi, et des rencontres. La chose qui m'a amené à ça, c'est, on va dire, crise écologique, mais aussi pauvreté, et un bouquin qui a été un peu déclencheur, c'est « Destruction massive, géopolitique de la faim » de Jean Ziegler, ancien rapporteur aux Nations Unies sur le droit à l'alimentation, qui dit très clairement que l'humanité peut produire de la nourriture pour 12 milliards d'habitants. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes, d'après lui. Et avec ce décalage, il a cette phrase choc qui est « Un enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné ». Alors à partir de là, j'ai voulu m'intéresser à pourquoi, comment en fait ces enfants-là peuvent être assassinés, toujours d'après les mots de Jean Ziegler. Et du coup, ça m'a amené à m'intéresser au problème de l'agriculture et de l'alimentation. Il a été déclencheur du fait de se poser des questions par rapport à tout ça. Et il a présenté une solution, en fait, à l'intérieur. Il présente la Via Campesina en tant que mouvement social qui est porteur de changement, très fort et qui est planétaire en plus, avec des valeurs qui me plaisaient. J'ai eu alors envie de m'investir là-dedans. Et du coup, je suis arrivé à Bruxelles pour faire un stage à la Via Campesina. Et de là, c'était un peu de la coordination. J'avais envie d'être plus dans le terrain encore. Et du coup, j'ai découvert les brigades d'action paysanne qui, eux, font du soutien concret, les mains dans la terre. Et c'est pour ça que j'avais envie d'aller bosser avec eux, pour soutenir vraiment l'agriculture paysanne. Et avec toute cette démarche collective aussi. Et je pense que c'était ça. Le bouquin de Jean Ziegler, ça a été le déclencheur. Puis après, il m'a donné des pistes que j'ai explorées moi-même. Et que maintenant, je continue d'explorer. Hein. J'ai rien de trouvé, j'ai aucune solution. Mais c'est juste maintenant, je sais un peu ce que j'ai envie de faire, vraiment ce qui me porte, c'est d'être en collectif, c'est d'être en lien avec les paysans. Pas forcément être personnellement paysan, mais les soutenir. Le fait d'aller donner un coup de main, tu files de l'espoir, les gens ils sont super contents, et ça se voit dans les yeux des paysans après les avoir aidés. Pour les chantiers que j'ai faits, on ramène 10 personnes qui vont abattre le boulot que lui il aurait fait du coup en 10 jours, et là on fait ça en une après-midi, et puis à la fin on a bien fait avancer son projet. Il peut se concentrer sur d'autres choses, donc c'est super concret. Et ça, c'est le côté un peu les mains dans la terre. Mais après, c'est couplé à toutes sortes de mobilisations politiques qui vont avec, en fait. I can change the world with my own two hands. Make a better place with my own two hands. Make a kind of place. Oh, with my own two hands. With my own, oh, with my own two hands.
Tous les théâtres, tous les centres culturels, les espaces qui donnent une vie, qui donnent un sens à la vie, qui donnent un espace pour l'art, qui donnent un espace pour tous les gens qui sont dans la culture, ont été fermés d'office, sans compromis, depuis un an. Et moi, c'est ça qui m'a révolté, en fait, parce que ça veut dire qu'on plonge dans une société encore plus laide qu'elle ne l'était avant. Et ça, pour moi, c'est révoltant, et c'est inacceptable. Et en fait, je crois que ça a amené beaucoup de gens à se poser eux-mêmes la question de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. Par exemple, on leur a dit « maintenant, vous ne pouvez plus danser, tous les espaces de danse sont fermés ». Eh bien, il y a plein de gens qui ne dansaient pas forcément avant, qui se sont mis à danser, tout simplement parce que c'était interdit, en fait. Il y a eu la boum, qui était quelque chose de... la toute première, c'était des jeunes qui allaient faire un pique-nique dans un parc, et qui se sont fait matraquer, chargés par la cavalerie, avec des autopompes, enfin, c'était vraiment Bagdad à Bruxelles, quoi. Et maintenant, c'est réellement la boum partout, quoi, dans le sens où il y a des choses, des événements qui se font tous les week-ends, toutes les semaines, et la vie à Bruxelles a repris, quoi. Bruxelles chante de nouveau, danse de nouveau. Oh
C'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait.
Je pense que c'est deux choses qui se répondent mutuellement, c'est-à-dire que émotion entraîne action, action entraîne émotion, et inversement. En fait, c'est spécial parce que j'ai l'impression que pour passer à l'action collective, il y a des choses assez... assez logique, c'est-à-dire que participer à des manifestations, tout ça. Et pour passer à l'action plus individuelle, c'est-à-dire à une espèce de compréhension de sa propre puissance et de la manière dont on peut l'utiliser pour faire des choses très concrètes. En fait, ça passe par la rencontre avec d'autres gens, en fait, et par la création de petits groupes de gens qui ont envie de se bouger sur certaines questions. Après, à part ça, moi j'ai un fort rapport avec l'action individuelle, simplement parce que je fais de la musique engagée et je considère que c'est une certaine manière de militer, en fait, de faire passer des messages à travers ça. Et ça, bah, c'est venu tout seul, quoi. Il n'y a pas de vraie explication.
Je pense que dans mon cas, je suis passée de l'émotion au mouvement quand je me suis rendue compte que c'était possible en étant inspirée par l'action d'autres personnes. Si je ne m'étais pas peut-être entourée de personnes qui sont passées à l'action, qu'il n'y avait pas des actions visibilisées, j'aurais peut-être pas eu l'idée de passer à l'action, en fait. Parce qu'en grandissant, je n'avais pas forcément des modèles désirables d'action collective qui se construisaient. Enfin, je me suis toujours identifiée comme féministe, par exemple, mais en grandissant, les féministes, c'était des folles, et donc se réunir autour de ce genre d'idées, c'était pas forcément quelque chose de désirable. Mais en fait, en évoluant, et enfin, heureusement, les représentations, déjà, je pense, en 15 ans, énormément évolué. Et ouais, c'est tout simplement, en fait, en étant inspirée par d'autres personnes, honnêtement. Il y a pas mal de collectifs, même d'individus qui font des trucs géniaux. Et je pense que non seulement ça te donne des idées pour te rassembler, s'organiser, mais ça donne de l'inspiration, en fait. Ça montre que c'est possible et ça montre l'impact qu'on peut avoir collectivement. Quand tu dis aussi collective ou individuelle, pour moi, l'action, elle est plus forte quand elle est collective. Mais c'est vrai que mon action individuelle, en fait, c'est... Moi, tous les jours, je m'engage à ce que toutes mes actions, dans la mesure du possible, eh ben, je les considère toujours sérieusement avant de les poser. Donc, si dans ma vie professionnelle, je dois faire un choix de programmation, ben, je vais me demander qui n'a pas assez de place, qui ne reçoit pas assez la parole, n'est pas assez reconnu, en fait. Et évidemment que ce mode d'action, il a aussi été inspiré par d'autres personnes.
Je comprends tout à fait les générations passées qui, oui, elles étaient alertées par les scientifiques et déjà de nombreux activistes, mais qui n'ont pas pris les choses en main à temps, parce que les choses ne sont toujours pas vraiment prises en main maintenant, alors que la prise de conscience est vraiment faite. Donc, je comprends tout à fait ces générations.
Diviser vraiment par génération et dire les jeunes ceci, les vieux cela, pour moi c'est une erreur. C'est nettement plus complexe que ça, et moi je fonctionne pas du tout en circuit fermé dans mes collectifs et les milieux que je fréquente. Je suis pas du tout juste avec des étudiants de mon âge qui pensent comme moi. Je suis avec des gens qui ont 60, 50, 40, 30 ans, enfin, c'est vraiment tous les âges en même temps. Et l'âge n'est pas du tout une barrière pour moi, ni au niveau des idées, ni au niveau du mode de vie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être une frange de la génération d'avant qui s'accroche à un monde qui est en train de s'écrouler. C'est possible, et si j'aurais un message à leur dire, c'est... lâcher prise, parce que tout va bien se passer.
Après, oui, c'est leur faute, mais bon, c'est eux qui étaient là avant, c'est eux qui ont profité de ce système, Et il y a eu plein de positifs à ce système, mais le but n'est pas de leur faire culpabiliser maintenant, mais au contraire, se soutenir, utiliser nos forces. Moi, en tant qu'activiste, avec mon mouvement, on travaille beaucoup avec les grands-parents pour le climat, et c'est quelque chose de très important pour nous, parce que ça nous permet de mieux comprendre les générations d'avant, ce qu'ils ont vécu, pourquoi il y a eu telle ou telle chose. Et donc, le but n'est pas de les faire culpabiliser, mais de comprendre et de trouver des solutions ensemble.
J'ai pas envie de trop opposer les générations, parce que je pense qu'il y a des gens qui s'engagent à tous les âges. Le message que je voudrais faire passer, c'est de réussir à faire le deuil en fait, de la société dans laquelle on a vécu. Quoi. Et ça, je pense que ça vaut aussi, de toute façon, pour moi, pour des plus jeunes, etc. Et à mon avis, c'est ça, la difficulté, c'est de réussir à passer outre et être critique par rapport à des histoires, à des narratifs qu'on nous a racontés.
À aucun moment, j'ai envie de leur faire porter la faute d'un mode de consommation, mettons, des Trente Glorieuses. J'ai l'impression qu'on est dans le même bateau. Au final, dans les années 70, nos grands-parents, ils étaient à fond dans ce mode ultra-consumériste de la bagnole, ce genre de choses. On va cramer ta Porsche. Si je leur adressais un message culpabilisateur, ça serait les prendre en tant qu'individu et comme si leur responsabilité elle était individuelle, alors que ça, j'y crois pas. Pour moi, c'est quelque chose qui fait système, quoi. C'est un tout. Quand tu me parles de ça, personnellement, ça me fait penser à mon grand-père. J'ai envie de lui dire merci, quoi, et à ma grand-mère aussi, évidemment, parce qu'il nous accompagne encore aujourd'hui. Le message que je dirais, c'est on est un peu dans le même bateau, donc on vous attend à nos côtés, dans les champs, en manif. C'est pas parce que vous êtes plus vieux qu'on peut pas construire ensemble le monde de demain.
Comprenez que c'est pas vous qui allez faire le futur, et laissez-nous faire, s'il vous plaît. Arrêtez de penser que votre cadre de pensée qui nous a mené à la merde dans laquelle on est va solutionner la merde dans laquelle on est. Tentez plutôt de venir avec nous en fait et de suivre ce que les générations jeunes ont à proposer, parce qu'il y a un aspect très très paternaliste dans le discours des générations plus âgées, alors même qu'elles ont bien fait foirer le monde. Je donne pas de responsabilité individuelle, mais je pense qu'il faut quand même être conscient que là, ça fait 50 ans que ça part bien en sucette quand même. Futur, j'attends tes d'usure, comment on l'usure, et du coup, en fait, profiter de l'énergie des jeunes et profiter du fait que nous, on est nés là-dedans, on est nés. Et moi, à partir de mes 12-15 ans, je savais que le futur, il était barré, en fait. Le futur, il est barré par le fait qu'il y a une crise écologique d'une énorme ampleur qui arrive et qu'on doit réagir par rapport à ça. Et donc, on a une inventivité qui est importante et qui demande de briser les codes qui sont établis là maintenant. Et en fait, briser les codes qui sont établis là maintenant, sortir du système dans lequel on est, c'est nécessaire, et je crois qu'il faut le comprendre, et qu'il y a des générations plus âgées qui ont du mal avec l'idée de ne pas être les grands sages, en fait, et que peut-être que la sagesse, elle se retrouve dans la jeunesse qui a été plongée dans un truc qui la force à agir dès le départ. Voilà.
Passer dans qui file gel, passer dans l'iris, pavé dans vitrine, s'il y a une charge, gros, pareil j'anticipe, pareil que j'amplifie, la puissance, je parle de GJ. On va cramer ta porte, j'ai dit, quelques lignes à l'action directe, parce qu'on dirait pas qu'on disait sérieusement qu'on veut pas ton système. Ah, ils comprendront que le bâton dit vrai, ils retiendront que le bâton dit vrai. Vos violences policières, c'est pas des bavures. Tu l'as matraqué au sol, oups, j'ai pas vu.
Il y a la phase positive et la négative. Donc, génération passée, c'est les colons, c'est les racistes, c'est les capitalistes, c'est les gens qui ont foutu cette terre à feu et à sang. Et maintenant, on se retrouve avec cette énorme merde qui semble parfois inextricable. Enfin, bon, ça, c'est la partie un peu négative. Et puis, la partie positive, c'est en fait merci à toutes les personnes qui sont passées avant moi et qui se sont opposées à tout ce système d'oppression. Il y a tellement de battantes, de battants dans même ma propre lignée, et je sais que je viens de ça. Ça m'inspire en fait. Je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé des actions importantes et courageuses et qui en font qu'aujourd'hui, ben, le monde, il est parfois un peu moins injuste. Donc, les générations passées, en fait, je voudrais aussi les remercier. J'ai beaucoup de reconnaissance et d'émotion quand je pense à toutes ces personnes qui ne se sont pas laissées abattre, parce que parfois, c'est un peu décourageant. Et en fait, parfois même, tu as ces moments où tu te dis que ça va plus, enfin que en fait à quoi bon, genre on va lâcher l'affaire. Nous, on est aussi là parce qu'il y a plein de gens avant nous qui n'ont pas lâché l'affaire, donc on peut pas se permettre de les décevoir. That girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy, who that is, ho, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy. With my little titties and my fat belly, I could tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world, they be fucking with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me. Step the resi up, don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty, I go locomotive, chitty chitty, bang bang. Gold hoops and a name chain, 10 boots are like 4 rings. Missy Elliott can't stand the rain, you lame, playing the same games. Ce qui m'inspire, c'est énormément de rappeuses qui donnent l'énergie pour se lever, continuer à se battre quand on n'en peut plus. Quand je me sens abattue, je mets de la musique très très fort dans mes oreilles et un peu de sororité dans mes oreilles. Ça me fait trop du bien et ça m'aide pour continuer à lutter. C'est des rappeuses comme Little Sims, trop forte, Princesse Nokia aussi, génial, Chica, et puis même des personnes qui ont aussi posé les bases pour que toutes ces personnes puissent fleurir ensuite, comme notamment Lauryn Hill, qui est une personne incroyable, et en fait, grosse appréciation pour toutes ces meufs badass qui font de la musique géniale. Are you ready for this, boy? Sweet force, we are the last. Barriers, sweet force, we are the last. Warriors, planet destroy, mutant en pagaille. Sortez les pachoy, préparez les cisailles. Sweet force, we are the last. Barriers, sweet force, we are the last. Warriors, des semences saines pour réparer les gènes. Fini la haine, on l'a soigné avec nos graines. Tous ces putains de zombies, ils ont bouffé trop de produits. Avant l'apocalypse, on était vrai, on l'avait bien dit. On a bâti City, semé des graines en série. Abandonner la monnaie, nous on dit oui à la vie. Fais pousser les munitions, c'est mort.
Alors c'est une patate, variété locale belge bio. Pourquoi une patate ? Parce que la patate c'est un symbole de la lutte paysanne, surtout en Belgique, c'est fédérateur de toutes les luttes pour la souveraineté alimentaire, pour la paysannerie. C'est aussi un symbole de ce contre quoi on se bat, parce que par exemple en Belgique, toutes les pommes de terre qu'on produit, elles sont destinées à être transformées puis après à être exportées. Et c'est-à-dire c'est exactement tout ce contre quoi on se bat. On a dessiné sur cette patate le jour de la mobilisation de la Journée internationale des luttes paysannes à Frameries, à côté de Mons. C'était une journée de mobilisation. Et c'est un enfant qui a dessiné là-dessus pour constituer une armée patatiste. L'objectif, c'était d'avoir toutes ces patates, de dessiner un coup de marqueur et après de mettre des bouts de bois pour les faire tenir debout et à la fin d'avoir une armée de patates qui nous aiderait à nous défendre contre le système agroalimentaire. Je trouve ça génial que ce soit un enfant qui a dessiné dessus parce que ça fait vraiment cette histoire de continuité, de lutte paysanne ou de lutte en général. C'est juste un bel exemple de partage et en plus, elle a une tête super marrante. Elle est vraiment complètement déglinguée. Donc, il y a le côté dessin et continuité qui est fort. Et puis en plus, elle a germé. Et donc, elle est encore plus punk maintenant. Elle a vraiment, on dirait qu'elle a une décrète ou je sais pas quoi. Et maintenant, ça veut dire qu'on peut la planter et qu'on aura plein d'autres patates. Et donc ça fait le lien avec les semences paysannes, avec le fait de partager les semences comme manière de se réapproprier la vie. Et je trouve que ouais, cette patate, elle est bien symbole de ce pourquoi on mène ces luttes-là, c'est pour se réapproprier la vie.
J'ai choisi le livre « Les furtifs » d'Alain Damasio. C'est un livre de science-fiction. Pendant 20-30 ans, c'est en France, les villes sont en faillite, elles sont rachetées par des multinationales. Genre Paris est racheté par LVMH, la ville d'Orange est rachetée par Orange, etc. Dans l'histoire, les gens commencent à se réveiller, à créer d'autres manières de vivre, des sortes de ZAD, mais un peu améliorées. Je trouvais ça important et lui arrive vraiment bien à le faire, quoi, à créer un nouveau narratif différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. On sent aussi que le gars est militant, quoi. Alain Damasio, c'est quelqu'un qui était proche de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et donc, dans la manière dont il écrit, on sait que c'est des choses qu'il a vécues et qu'il essaye de leur transmettre. Il décrit un monde hyper capitaliste, hyper contrôlé. Toutes nos données sont partagées, etc. Mais en même temps, il y a vraiment ce basculement dans le livre où les personnes arrivent à s'organiser, à lutter. C'est ça que je trouvais intéressant.
Nantes est officiellement devenue la première vague ville autogouvernée de France. Après 3 ans de guérilla intense, elle a été rachetée à Civines par ses habitants. À ce jour, Brest, Rennes, Vienne, Nanterre, Orange, Alès et Marseille sont en passe de basculer aussi. Les multinationales, de leur côté, semblent au creux de la vague.
Un livre qui est très intéressant à lire, qui est sorti tout récemment, ça s'appelle « Quel monde pour demain ?». Il a été écrit par 4 femmes, Sandrine Dixon de Clèves, la princesse Esmeralda de Belgique, mais aussi 2 activistes de mon mouvement, Adélaïde Charlier et Hanouna de Weaver.
On est exactement comme Adélaïde et Hanouna l'ont dit, dans la lutte la plus existentielle de notre vie et qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble, que c'est la première fois qu'on commence à sentir que les générations luttent ensemble. On a les grands-parents pour le climat, on a les jeunes pour le climat, on a les scientifiques pour le climat. Donc je crois que ce qui était important dans ce livre aussi, c'était non seulement d'échanger ces expériences entre nous, de partager ça avec le lecteur et le citoyen, en espérant qu'il y en a beaucoup qui vont le lire, et puis de dire, on est dans ce combat ensemble, et ensemble on peut construire un meilleur monde pour demain.
C'est pas un livre à lire comme ça le soir à moitié endormi, parce que c'est un peu parfois scientifique où il y a beaucoup de chiffres, mais c'est vraiment ouvert à tous et c'est super facile à lire et ça se lit très facilement, ça se lit vraiment en une après-midi tellement c'est intéressant et c'est vraiment des dialogues entre 2 générations qui apportent des solutions ou qui racontent leur histoire. Quand on voit que ces 2 femmes sont si heureuses de voir que la nouvelle génération se lève et qu'elles viennent les rejoindre, moi j'ai trouvé ça vraiment émouvant. Parce qu'elles, du coup, comme j'ai dit, elles se battent depuis longtemps et elles, c'est pas qu'elles se sont pas senties entendues, mais elles crient et rien, le système n'a pas encore changé, donc c'est que ça n'a pas suffi. Et les voir si heureuses d'échanger avec une nouvelle génération d'activistes, c'est vraiment intéressant.
Pour moi, mon inspiration artistique principale, c'est vraiment Gaston Bachelard. Pas tellement au niveau de la résistance, mais plutôt au niveau purement poétique. Dans le sens où la deuxième partie de l'œuvre de Bachelard, c'est une sorte de recherche alchimique, philosophico-alchimique, où il prend des images poétiques de différents éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air. Et il les analyse et il compile en quelque sorte toutes ces images poétiques des plus grands poètes de l'histoire
L'imagination poétique est donnée généralement comme une faculté joueuse, consciente de son irresponsabilité, courant au-dessus des choses, qui tend sans fin dans une virtuosité d'image, une image pour une autre. On la donne comme un besoin insatiable d'expression, besoin qui doit toujours trouver de nouvelles formes et de nouvelles couleurs. Le poète se livre à la vie des formes et des couleurs. Il accélère le mouvement de tout ce qui vit et de tout ce qui resplendit.
C'est d'une beauté extraordinaire, en fait. J'ai du mal à décrire Bachelard avec mes propres mots, parce que c'est tellement fascinant. Mais pour moi, le premier livre de Bachelard que j'ai lu, ça a changé la manière dont je voyais le monde, quoi. Ça, c'est très net. Après, en termes d'inspiration, au niveau de la résistance, ça, ce serait plutôt Deleuze qui parle de l'art et du fait de créer quelque chose de nouveau comme un acte de résistance pure, en fait. L'acte le plus pur de résistance, c'est d'en fait créer quelque chose qui est complètement en dehors des cadres, complètement nouveau, donc faire de l'art, en fait.
L'art, c'est ce qui résiste. D'où le rapport. Le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art, et l'œuvre d'art. Tout acte de résistance n'est pas une œuvre d'art, bien que d'une certaine manière elle en soit. Toute œuvre d'art n'est pas un acte de résistance, et pourtant d'une certaine manière, elle l'est.
Ça, je trouve ça assez intéressant. Et l'art, c'est ce qui reste aussi, c'est ce qui reste après la vie, après la mort.
Au niveau lecture, je lis beaucoup de philosophie politique et de sociologie et de stratégie politique au sens propre, en fait, de comment on fait, tout simplement. Au niveau musical, j'écoute énormément de rap français, j'en fais aussi. Du coup, ça, c'est vraiment une source importante, parce que je pense que, en fait, dans le rap français, surtout maintenant, c'est devenu tellement large et hétéroclite qu'il y a énormément de choses qui se retrouvent et qui peuvent t'inspirer, te mettre des choses en tête, te faire comprendre des manières de voir le monde aussi qui sont différentes des tiennes, qui sont, par exemple, qui sont pas celles d'un blanc comme je suis. Donc ça m'inspire beaucoup.
Le suicide m'a tiré, leur système m'a triste. Il faut en sortir pour péter la matrice. Détester c'est la patrie, ça fait partie des idées politiques. Jeune rappeur prolifique, moi je suis hors limite. En j'imite vos gimmicks de putain de pantin. Mais je vous laisse pantois devant le panthéon de mes sons, qui des fois me permettent de remonter la pente hontée de mes songes. Je passe le message. Leur monde est rempli de crasse, ça me dégoûte, faut que je fasse le ménage. Donc je remue les méninges. Prod de kids slang dans écouteur. Je pense au futur et j'ai tout peur. Les rappeurs font des textes poubelles, y'a juste Achille en éboueur. T'es pas dans l'équipe si t'es pas fiable. Antifa sont traités comme mafia. Frangin, j'suis méfiant. Ils trichent comme Macron et Fillon. J'tiens ce putain de filon. J'vais pas laisser filer. Dans ma tête, j'saute dans le vide. Frangin, y'a plus de filet. Pareil qu'on est tous dans le même bateau. Mais j'vois des gens embarqués, d'autres en paquebot. Une couche de milliardaires fait un embargo. Sur l'égalité, ils sont alignés. On est aliénés. Pourtant, c'est eux les aliénés. Et leur système attriste, il faut en sortir pour péter la matrice. Le suicide m'attire et leur système attriste.
Le suicide m'attire et leur système attriste, il faut en sortir pour péter la matrice. Le suicide m'attire et leur système attriste, il faut en sortir pour péter la matrice.
La loi interdit, la discipline normée, la sécurité normalise. Le monde je décrypte, c'est beaucoup plus simple quand je l'analyse. Caméra nous filme, l'État nous observe, faut lui crever les yeux. Système complexe, on bras pas tout seul, il faut faire des lésions. Je pense au futur, j'ai pas la paix. Il faut que nous dire de pas l'après. Depuis petit, je capte paramètres. Yeux sur la cible, je vais pas rater. Ah, le son est cohérent, dangereux. Le rap c'est facile. Je me co et je rentre dans ce jeu. Kata c'est l'hérité, Achille c'est l'héritier, je rêve aux célébrités. Le but c'est l'éviter. Au-dessus des gens que j'ai évité. Après le beau esprit vidé, je suis Jack, toi t'es vitesse.
elle. Changer le monde, bah c'est vital. Celui qui bouge pas ne sent pas ses chaînes. Mais en vérité, on est tous assiégés. Shit, cours d'eau sont asséchés. Pourquoi c'est ceux qui se trompent méga fort qui tiennent le mégaphone? Tu crois que tu capes la métaphore? Oui, métaphore. 6 novembre, faut prendre la tête comme métallo. Le suicide m'a tiré leur système attriste. Il faut en sortir pour péter la matrice. Le suicide m'a tiré leur succès matrice. Il faut en sortir pour péter la matrice.
Qu'est-ce que sera demain? Le début ou la fin? Pour la fin, qu'est-ce que sera demain?
Le futur, ben, j'ai à la fois de l'espoir et des craintes. Dans le futur, pour moi, il y aura, enfin, la planète telle qu'on, l'environnement tel qu'on les connaît maintenant, ce ne sera plus la même chose. Qui sait ce qui nous attend, mais à un niveau politique, ben, j'ai aussi des craintes. En Belgique, quand même, peut-être qu'aux prochaines élections, le Vlaams Belang sera premier parti de Belgique, donc en fait c'est une menace très réelle, mais j'en suis très consciente malheureusement, et puis ça se traduit un peu globalement, hein, la montée du fascisme global, ben, évidemment que c'est un truc qui me fait peur.
Si on se fie aux chiffres desquels on est abreuvé tous les jours, c'est la merde. C'est vraiment comme ça que j'envisage le futur, c'est la merde. Et si jamais je devais mettre une image là-dessus, je pense que le futur, il sera entre Mad Max et 1984. Deux mondes dans lesquels j'ai pas du tout envie de vivre. Pourtant, il y a plein de monde, hein, qui essaie de bouger les choses aussi, mais on est face à des types qui ont du pouvoir extraordinaire, qui pourraient mener le monde tout droit dans cette direction. Et quand bien même, par rapport au problème du climat, il serait résolu, je pense que ce serait moins en plantant des arbres qu'en créant une super machine pleine de minerais rares qui va pouvoir absorber le carbone pour le transformer en oxygène. Et j'envisage un futur archi-technologique, archi-inégalitaire, tout ça avec en toile de fond une crise écologique, enfin des crises écologiques, parce que c'est autant le climat que la perte de biodiversité, et donc sur toile de fond de désert avec 2-3 oasis où seuls les nantis pourront s'abreuver.
Je crois en effet qu'il y a une société de contrôle et de surveillance qui est en train de se mettre en place. Si on reprend les idées de Foucault avec les dispositifs de surveillance et tout ça, on voit qu'on est réellement en train d'assister à ça. C'est même pas dans le futur, c'est déjà actuel, et je crois qu'on n'a pas fini, malheureusement, on n'est pas au bout du tunnel. Donc on se dirige vers des sortes de smart city où tout est livré à la porte et on ne doit plus sortir de chez soi, ni pour travailler, ni pour faire ses courses, ni pour rien du tout. Donc on peut théoriquement rester confiné pendant un an dans son appartement et continuer à vivre.
Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'essaye de ne pas me dire que ce sera l'apocalypse comme on voit dans les films de science-fiction depuis des années. Mais c'est clair qu'il va y avoir des changements, il y en a déjà. Il va y avoir énormément de migrations climatiques. Il va y avoir de plus en plus donc, de tensions dans les pays comme l'Europe ou l'Amérique. Donc oui, le quotidien va être différent pour de nombreux citoyens, surtout des pays du Sud, mais aussi pour les pays du Nord, car il y aura toutes ces migrations climatiques. Et puis aussi, le changement climatique va toucher nos régions. Donc oui, les choses vont être différentes, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'essais et d'échecs. Mais il y a un moment où on va réussir à trouver une sorte de cohésion, et on va comprendre que c'est la solidarité qui gagne toujours face à tout ça. Mais c'est clair qu'il va y avoir quelques échecs.
Schématiquement, il y a deux possibilités, quoi. Il y a la possibilité d'un système capitaliste qui raciste et patriarcal qui juste continue dans sa logique, qui continue son écocide, qui continue à assouvir les populations et qui va juste le faire de plus en plus, en fait, parce que c'est ça la logique capitaliste, et qu'on va se retrouver face à une crise où soit le capitalisme sans puissance encore et toujours et crée des populations de plus en plus marginales, soit, soit on change les choses, en fait. Et alors là, le futur est compliqué et très difficile à réinventer, mais il est ouvert au moins.
Qu'est-ce que sera demain ? Le début ou la fin ? Ou la fin ? Qu'est-ce que sera demain ?
Ça dépend un peu de mon humeur du jour. Des fois, je vois un peu le mur en face, toutes les difficultés qu'on doit surmonter, et là, je suis quand même pessimiste. Après, je cherche un peu toujours des signes, on va dire, des signes positifs, quoi, des petites victoires, des trucs pour essayer de me remettre dans un mode optimiste, quoi, voilà. Mais comme je disais, ouais, c'est de l'incertitude, quoi, du coup, on sait pas. C'est un peu au jour le jour, ouais.
Souvent, on est dans un truc, un idéal utopique ou dans une dystopie orwellienne. Ou, enfin, voilà, on a des imaginaires comme ça. En fait, je crois qu'il y en a plusieurs qui coexistent en même temps. Il y a des utopies et des dystopies qui sont voisines l'une de l'autre. Il y a plusieurs futurs différents, en fait, qui vont coexister.
Je crois que se baser sur un futur dystopique, ça incite pas à l'action. Et je pense que très clairement, évidemment qu'il y a encore de l'espoir. Évidemment qu'il y en aura toujours, en fait. Parce que l'humain est fait d'une telle manière que en fait il peut se réveiller collectivement, en fait.
Il y a une certaine partie de la population qui se sent vraiment citoyen et qui agit et qui utilise son pouvoir de citoyen avec son pouvoir de consommateur, c'est avec son pouvoir de vote et qui utilise ce rôle qui est très important et qu'on oublie souvent. C'est une minorité qui a pris conscience de cette urgence et qui a pris conscience de son pouvoir et de son rôle et qui fait tout pour changer les choses.
C'est vrai qu'il y a des gens très conscientisés et que c'est génial, leur parole est médiatisée et portée. Et donc, ça apporte de l'espoir, évidemment, au quotidien. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas d'accord. D'une certaine manière, on pourrait dire encore heureux, sauf que... Que tout le monde ne soit pas d'accord sur les droits humains, l'égalité, c'est pas comme des différences sur les ananas sur les pizzas, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qui mène à une société plus riche. C'est quelque chose qui mène à la haine. Et voilà, c'est ça qui me fait peur, malgré le fait que j'ai beaucoup d'espoir aussi et d'appréciation pour les choses qui sont en train de bouger. Et les gens qui se rassemblent et qui posent leurs actions, ouais.
Il y a des gens qui commencent à occuper les espaces vides et abandonnés, à créer et recréer de la culture, des espaces culturels, des espaces pour loger des réfugiés, des sans-abri, pour faire plein d'initiatives qui sont extrêmement positives et qui investissent l'espace urbain d'une autre manière. Du coup, il y a énormément de choses qui sont nées, notamment durant cette année de confinement, énormément de milieux qui ont commencé à se solidariser clandestinement, étant donné que c'était interdit. Il y a énormément de réseaux souterrains qui se sont créés. Et ça, c'est une belle promesse pour le futur aussi. Donc, en fait, les deux sont en train de naître en même temps, je crois. Et à l'avenir, ça va continuer comme ça, je crois.
Toutes les actions qu'on est en train de monter, tout ce qu'on est en train de poser... Tout ce que les personnes qui nous entourent font, les luttes qu'elles mènent, en fait, ça va aboutir à des changements concrets. Et ça, j'en doute pas non plus. Après, le temps que ça va prendre, je sais pas. Et parfois, c'est vrai que c'est frustrant parce que parfois, on a l'impression qu'on est tellement loin et en fait, on se heurte à la réalité. Et en fait, on n'est pas forcément si avancé que ce qu'on croit en termes d'égalité, en termes de lutte antiraciste, en termes de féminisme, de queerness. Enfin...
Jusqu'à présent, je vois que les jeunes générations qui parlent de vrais changements, en fait, et qui commencent même maintenant, au jour le jour, à changer leur manière d'être, à changer leur rapport à l'autre. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. On est toujours déjà dans le processus révolutionnaire, en fait. C'est pas quelque chose qui arrive à un instant T. C'est quelque chose qui dure des dizaines d'années. Et donc, commencer maintenant, c'est permettre à ce que le futur soit ouvert.
Mmh. One day, I'm gonna understand.
Et la génération future, ben, il y a déjà la génération Z, hein, la génération de mes petits frères et sœurs, et génération à venir. Et déjà, la génération Z, j'aimerais le remercier parce que, en fait, c'est une génération qui m'inspire aussi énormément. Donc, tout autant que la génération passée qui a posé des actions courageuses, ben, la génération Z, je les vois comme des personnes qui n'ont pas peur de s'affirmer, en fait, et de s'affirmer en s'extirpant peu à peu des carcans oppressifs dans lesquels nous, on a dû évoluer. Ben, j'ai l'impression que Yel refuse ça de prime abord, quoi. En fait, Yel ne vont pas coopérer avec ce système. C'est l'impression que j'ai avec des personnes qui m'entourent, et je me dis, mais vous êtes badass.
Moi, j'avais appris ma vision sur le monde et d'en parler avec des plus jeunes. C'est très, très intéressant parce que du coup, ça m'a vraiment permis de voir à quel point faut vraiment se reposer sur les générations jeunes, en fait. Notamment parce que, bah, tout simplement, on avait fait une fois une longue activité sur la question du genre, la question du sexe, et les petits de 8 ans comprenait 10 fois mieux la question que ceux de 15 ans, quoi. C'était ahurissant. Alors que c'était des trucs très théoriques, en fait. Mais pour eux, ça leur semblait logique. C'est-à-dire qu'à 8 ans, t'es pas encore... T'es déjà construit, mais t'es pas encore construit à un tel point que ça te paraît bizarre d'imaginer autre chose. Et c'était impressionnant. C'était vraiment... C'était un moment assez fort. Et donc, ouais, le fait de transmettre, ça fait aussi qu'on me transmet des choses. Parce que voir un enfant de 8 ans qui t'explique comment il a compris la notion du genre et comment il a compris que ça n'a aucun sens de définir le genre de deux manières différentes et de le lier au sexe, etc. C'est fort, quoi. Et tu te dis, mais c'est vrai. En fait, moi j'ai l'impression qu'il faut le déconstruire, mais comme c'est ce qu'on t'a toujours appris, ça a du sens dans ta tête. Et dans la tête d'un enfant de 8 ans, en fait, pas forcément, quoi. Ça permet pas mal de choses, cette espèce d'échange entre des jeunes d'âges différents.
Évidemment, je me dis que c'est aussi grâce à ce que, ben, notamment même ma génération pose, toutes les ressources qu'on partage, les paroles qui sont dites. Je sais que ben, moi, je vois ça dans un cercle familial aussi. Je sais que j'ai pu avoir un impact sur la vision de mes frères et sœurs, et ça me fait du bien, en fait. Ça montre que déjà à un niveau individuel, on peut faire évoluer les choses, que eux, ils n'auront pas à déconstruire beaucoup de choses que moi j'ai eu à déconstruire, parce que c'est en fait super super compliqué. Enfin bon, évidemment, énormément reste à faire, hein. Je ne me leurre pas non plus, mais je me dis, en fait, ils ont moins d'entraves que nous, tout simplement. Enfin, et je trouve ça génial. Et oui, du coup, j'ai l'espoir que de ce changement individuel, ben, puisse se dégager des changements systémiques. Je crois que c'est vers ça qu'on doit tendre, pas juste la conscientisation individuelle, mais après le vrai impact au niveau sociétal, au niveau légal, au niveau culturel. Enfin, il faut tout casser, en fait. Et les générations futures, elles sont prêtes. Elles sont prêtes à faire ça. Et je suis super heureuse.
Bah, pour les générations futures, c'est vraiment une question complexe. Parce que je suis pas un oracle, malheureusement, mais... je crois que le changement, il est là, de toute façon, quoi qu'on fasse. On a toujours l'impression que les choses sont un peu immuables, mais en fait, pas du tout. On regarde l'état du monde il y a 10 ans, il y a 20 ans, bah, c'est pas la même chose. Ça change de plus en plus vite, en plus. Donc, je m'en fais pas. Je crois que le changement, il est là. Et que justement, bah, au niveau, vous parliez des générations, justement, il y a une inversion de la pyramide des âges. Donc, le baby boom des années 60 qui arrive en fin de parcours. Et une génération qui va prendre la relève. Donc je crois que le changement, il y a vraiment, je crois qu'on est sur un point de basculement très important dans la société, avec des transformations sociologiques profondes.
Et je crois que la jeunesse a un rôle d'autant plus important à jouer dans ce cadre-là. Moi, je suis optimiste.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que rien n'est foutu. Donc nous, les jeunes et les encore plus jeunes et ceux même qui vont naître, c'est encore possible. Alors ceux qui vont naître, ça sera peut-être trop tard parce que bon, c'est 20 ans d'écart, c'est beaucoup. Mais pour les générations d'aujourd'hui, de mon âge, c'est encore possible. Il y a encore moyen de diminuer ce changement climatique. Il y a encore moyen de changer cette société. Et au contraire, ce qui est chouette, c'est qu'il faut tout réinventer. Et donc, c'est un moment important dans l'histoire où on peut en profiter et trouver plein de nouvelles idées, plein de nouvelles solutions et réinventer notre société, réinventer le monde. Le système d'aujourd'hui, il a eu du bon, mais il a des limites. Donc on va essayer de trouver quelque chose de plus proche de la nature, plus vrai, plus humain.
Quand bien même le monde est foutu, et qu'on est en vie, et qu'on n'a pas forcément choisi d'être en vie, il y a malgré tout mille manières de profiter de la vie et de la beauté du monde. Et du coup, ne pas nécessairement se concentrer que sur les choses négatives. Après, c'est peut-être un peu une phrase de privilégié, de ouf, mais quand bien même c'est la merde de tous les côtés, il y a toujours des choses qui sont belles. Et je pense que c'est ça, si jamais j'avais un leg pour les générations futures, ça serait des choses que je trouve magnifiques, que ce soit de la poésie ou des trucs qu'on trouve en balade.
Pour les générations futures, je pense que la période demande qu'on s'engage, en fait. Je vois déjà un peu plus d'engagement. Il y a des questions que, genre, moi, par exemple, quand j'étais en secondaire, etc., on ne se posait pas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un processus. J'espère qu'il va se maintenir. C'est un peu ça, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix de s'engager maintenant et de militer, au sens large, quoi. Pas forcément dans les trucs de désobéissance civile, mais en fonction des enjeux qui nous touchent et des modes d'action qui nous semblent pertinents et cohérents.
On a confiance en vous et on sait que c'est avec vous que le monde va changer, en fait, parce que c'est nécessaire, et que si c'est pas avec vous, ce sera avec personne, et donc ce sera la merde. Et du coup, on a confiance en vous, et prenez confiance en vous aussi, et qu'on change ce monde ensemble, quoi.
Vous écoutez le Blob.
Je m'appelle Lucie Moreau, j'ai 20 ans, je suis étudiante et je suis aussi activiste depuis 2 ans dans plusieurs mouvements dirigé vers la protection de l'environnement et des droits de l'homme.
Je m'appelle Elias, j'ai 23 ans, je viens de Bretagne. Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps à Bruxelles pour bosser dans les mouvements paysans et j'ai trouvé un stage aux brigades d'action paysanne. Si je soutiens l'agriculture paysanne, c'est parce que ça a une potentialité de changement assez extraordinaire. Ça ne touche pas seulement l'alimentation, mais ça touche plein de côtés politiques avec des valeurs que je trouve belles pour construire le monde de demain face à des enjeux terribles que sont notamment les crises écologiques. Et c'est les crises écologiques qui m'ont amené à vouloir m'investir là-dedans à la base.
Qui est-ce que je suis? Pas grand monde, hein. Je suis juste... je suis quelqu'un qui en a marre, quoi. Qui en a marre depuis longtemps, qui a envie que les choses changent. Et du coup, qui a envie de se bouger et qui a envie que le monde se bouge aussi. Et... J'ai pas envie de donner une définition précise de moi, en fait. J'ai pas envie de me définir par le fait que j'ai fait des études ou pas. Je crois que le fait que je fais de la musique, c'est très important pour me définir, parce qu'il y a énormément de moi qui passe là-dedans, en fait. Ouais, si vous avez envie de me découvrir, écoutez ma musique et ça marchera, je pense.
Moi, je m'appelle Floki, enfin, on m'appelle Floki. Et je suis encore étudiant, en fait. À l'université de Vienne en anthropologie et j'ai étudié journalisme auparavant et puis par désir de creuser plus loin dans l'investigation, dans la recherche, je me suis lancé en anthropologie pour aller plus profondément dans les choses. Via mes études en journalisme, déjà je m'étais un petit peu intéressé à l'activisme, au militantisme, je m'étais impliqué dans l'actualité de l'époque. C'était le moment de la crise des migrants, et donc j'avais fait différents projets là-dedans, des documentaires sur les enfants réfugiés dans les camps. J'avais noué des liens avec beaucoup de réfugiés, des Kurdes notamment, les communautés kurdes. Et donc j'avais mis un premier pas déjà dans ce militantisme, et via l'anthropologie évidemment j'étudie ça beaucoup plus en profondeur avec toutes les thèses marxistes et toutes ces analyses de la société et des problèmes de domination entre les classes, les habitus de Bourdieu et tout ça. C'est des concepts avec lesquels on est très familier évidemment quand on est en sciences sociales, donc qui mènent la plupart du temps à l'activisme, au militantisme.
Je m'appelle Jean, j'ai 26 ans, je milite au sein d'Extinction Rébellion, entre autres, et aussi dans d'autres collectifs. Là, ça fait plus ou moins 2 ans. J'ai été dans des formes d'action un peu plus actives. Ici, c'est de la désobéissance civile. J'ai participé aux marches en 2018, et en voyant que voilà, ça n'avait pas d'effet, et même qu'il y avait même des décisions politiques qui étaient complètement à l'inverse de ce qui était demandé, là, je me suis dit, ok, maintenant, il faut aller dans un rapport de force un peu plus actif, on va dire, pour vraiment amener nos sujets à l'agenda politique, quoi.
Se définir en quelques mots, c'est toujours très réducteur, mais je suis une femme queer, cisgenre, iranienne, bruxelloise. J'adore les gens, j'adore rire, vivre et partager des trucs. Et j'aime bien la collectivité. Je suis opératrice culturelle, que j'aime parfois initier des choses, mais aussi souvent... soutenir des personnes qui font des trucs fous et à ma manière du coup de contribuer à la lutte. Et que je suis une personne aussi au fond de moi optimiste. On va casser des culs et on va rigoler et on va faire ça ensemble.
Cette 5e émission est le fruit d'un véritable travail collaboratif de création mené par l'équipe de la Maison du Livre, composée de Christian, Julie, Mathieu, Mélanie et Pierre.
Un immense merci à Achille, Elias, Floki, Jean, Lucie et Maria qui nous ont partagé avec sincérité et passion leurs engagements et leurs parcours de vie respectifs.
Rien n'aurait été possible sans le soutien du Xara ASBL et de Radio Panique, qui ont été nos complices tout au long de ces 6 mois d'expérience radiophonique.
Spécial casse dédiée à Clem, Noé et Thibaut.
Nous vous souhaitons un très bel été et nous vous donnons rendez-vous dans notre maison à la rentrée.